Donc bienvenue pour ce temps de lecture donc, de la Bible. Alors avec James, on a choisi un programme autour de la prière. Alors là, en fait, c'est ma femme Suyun qui a eu l'idée de prendre le plan du Notre Père pour donner un peu des chapitres sur la prière, puisque bon, Jésus nous donne cet enseignement sur la prière et il nous dit, ben voilà, peut-être un peu une piste pour prier. Donc peut-être qu'on peut reprendre les différents moments du Notre Père, pas étudier le Notre Père, nous l'avons déjà fait 1000 fois, mais que ça donne un peu un sommaire finalement, un plan. Donc aujourd'hui, la première, puisque le Notre Père commence par Notre Père qui est aux cieux, donc avec un peu une méditation sur Dieu au début. Donc je propose que cette première rencontre, ça soit autour de l'idée de contemplation, de se placer devant Dieu. Ensuite, donne-nous notre pain. La semaine prochaine, ça sera la prière de demande. Est-ce que ça marche? Comment ça peut marcher? Qu'est-ce qu'on peut demander, ne pas demander? Enfin, je ne sais pas. Ensuite, le pardonne-nous comme nous pardonnons peut-être la repentance. Voilà. Et puis, délivre-nous du mal, l'appel au secours. Avec, voilà. Alors, je ne suis pas le texte même du Notre Père. Bon, on pourra y faire allusion. Mais donc, pour la contemplation, je vous proposais un texte du Premier Testament, de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament, donc où l'on voit David avoir une prière de contemplation, finalement. Alors, de méditation sur Dieu, ce qu'il lui a apporté à sa vie, quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai que si vous voulez, la difficulté, c'est que bon, David, c'est un personnage historique, hein. Mais c'est finalement le premier personnage historique de la Bible. En fait, les autres personnages, par exemple un personnage comme Adam et Ève, bon, on est à peu près dans les églises chrétiennes, pas tous d'accord, mais en tout cas l'église catholique, l'église protestante, on est d'accord pour dire que Adam et Ève, c'est des personnages finalement... C'est même pas mythique, c'est allégorique. C'est nous qui sommes Adam et Ève. Ensuite, Abraham, on dit que c'est quand même probablement un personnage, un ancêtre tutélaire. C'est un peu une façon de présenter les choses, si vous voulez. Enfin bref, l'histoire archéologique commence avec David. Mais ici, c'est pas seulement vraiment la question, si vous voulez. Si ça se trouve dans la Bible... Eh bien, c'est que c'est pour nous être proposé comme une prédication. Alors, on va le voir dans le cours du texte. Dieu se révèle par ses actes, mais donc l'histoire d'Israël est aussi une prédication sur qui est Dieu et sur comment vivre avec Dieu. Donc, évidemment, c'est le cas de ces prières de David en particulier. Est-ce que c'est la vraie prière de Monsieur David qu'il a pris en note et qu'il a mis là par écrit? Bon, il peut y avoir quelque chose comme ça, finalement, parce que ce roi David, il est connu, donc, comme étant un roi, un type d'homme assez complet, finalement. Il est roi, il est vraiment en relation avec Dieu. Il est connu pour sa capacité à prier, à chanter les louanges de Dieu avec les psaumes. Mais, si vous voulez, le personnage de David, c'est aussi un personnage qui est construit dans la Bible, c'est-à-dire qu'il parle de nous, il parle de chacun de nous, ou à l'occasion de ce personnage historique, c'est une façon aussi de nous faire réfléchir à notre existence, à notre prière. Alors, spécialement David peut-être, si on dit effectivement que David est l'ancêtre du Christ, que le Christ est fils de David, ça veut dire quand même quelque chose sur l'humain par excellence, en fait, ce personnage de David. Il est plus que le personnage historique, si vous voulez. D'ailleurs, David en lui-même, le mot David, ça veut dire le bien-aimé. Donc, c'est déjà un programme de nous dire l'humain comme étant aimé par Dieu, choisi par Dieu, avec cette onction d'huile qu'il reçoit au début, comme par surprise, pour dire, voilà, tu es... Dieu compte sur toi pour vraiment, donc en l'occurrence, être roi, c'est-à-dire participer à au gouvernement, c'est-à-dire à l'organisation, à la mise en paix du monde présent, pour que la vie soit plus belle, plus agréable pour le maximum de gens autour de lui. Alors donc, David, il est aussi connu donc, par sa type de relation à Dieu. Et bonjour, il y a une petite feuille, voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi un exemple, un type pour nous. Alors heureusement, c'est un exemple relativement humain, c'est-à-dire qu'il n'est pas parfait, il fait plein de bêtises, des crimes sans doute bien pires que ce que nous ne ferons jamais, j'espère. Oui, c'est quand même assez gratiné, hein, quand même. Donc je veux dire, c'est aussi, c'est, oui, c'est une figure, en même temps une figure un peu idéale, un peu, il y a des choses qui se disent de l'humain véritable avec Dieu. Et en même temps, bon, ça laisse la place, je veux dire, à exister, à respirer, voilà. Alors ici, nous avons une prière qui est un moment un peu important de son existence. C'est-à-dire qu'il a pu devenir effectivement roi, ce qui n'a pas été évident. Un bon roi avec du succès, c'est-à-dire qu'il a pu chasser les ennemis, mettre la paix à la frontière. Il a pu rétablir un royaume qui fonctionne économiquement. Il a pu se construire une belle capitale à Jérusalem, ce qui n'était pas évident que ce soit à cet endroit-là. Voilà, en tout cas, il a reconstruit les murailles, reconstruit son palais. Et puis il se dit, bon, les choses vont bien. Peut-être qu'il serait temps de faire un peu un temple au milieu, quand même, pour Dieu. Et alors, il confie ce projet au prophète Nathan, qui est là aussi pour l'aider un petit peu quand David ne voit pas très clair, même si David est un peu prophète sur les bords. Ça peut nous dire que oui, on est prophète, on peut aussi être en relation à Dieu, être éclairé, avoir des projets, mais peut-être c'est bien d'en discuter un peu avec d'autres prophètes que nous-mêmes, en fait. Donc ça, c'est aussi peut-être un bon exemple. Enfin bref, Nathan lui dit, vas-y, fonce, ton projet est génial. Et puis finalement, quand même Nathan, je ne sais pas s'il réfléchit ou s'il prie, en tout cas Dieu l'éclaire, et lui dit non, construire un temple, ce n'est pas la peine. Tu vas dire à David que ce n'est pas la peine de me construire un temple, que de toute façon, ce qui compte, c'est que toi, David, et puis tes descendants, ta maison restera vraiment à régner pour toujours sur le pays. Alors, ce qui est vrai et pas vrai, parce que dans un sens, aujourd'hui, il n'y a plus de descendance de David qui est roi, ce qui désole beaucoup les intégristes juifs, mais bon, c'est comme ça. Enfin, bref, il y a cette promesse qui est donnée et David entre donc dans la prière. On le voit, c'est ce texte pour remercier Dieu, pour placer ça devant Dieu. Jusqu'ici, vous avez un peu des questions, des remarques. Vous avez le droit de... On peut discuter. Hein. D'abord, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que racontent le ou les pasteurs. Mais... Bon, vous avez pu apprendre des choses par ailleurs, avoir des informations ou avoir des pistes de lecture de ces textes. Hein, c'est fait pour. Hein. Donc, je vous ai mis le français à gauche, prière de David, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7. Et puis à droite, j'ai mis l'interlinéaire hébreu-français. Alors même si on ne connaît pas l'hébreu, de voir le mot à mot, ben c'est peut-être, ça peut être des fois utile, pratique, de se rendre compte un peu de ce que c'est que... le plus proche du texte. Alors dans le texte hébreu, bien sûr, hein, ça se lit de droite à gauche, en fait. C'est comme ça. Et pas de gauche à droite. Alors, au début, si vous voulez, ça commence par « et il vint » finalement. Hein? Alors, aller à Dieu, à mon avis, justement, hein, c'est le type même de la prière, en fait. Et à la limite, prier, c'est seulement ça. C'est d'abord ça. Ben, c'est aller vers Dieu, voilà. Et j'allais dire le culte du dimanche matin, peut-être que la prédication est nulle, les chants ne nous plaisent pas du tout, la liturgie nous paraît pas intéressante, mais n'empêche que le fait de sortir de chez soi, de se déplacer, d'aller quelque part, il y a déjà quelque chose dans les pieds qui bouge, quelque chose de la prière en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement physique... ou mental, peut-être, ça peut être, et il vint, ça peut être uniquement dans son lit quand on se met à tout d'un coup, on peut aller à l'éternel, voilà, à Dieu, par la pensée. Et déjà, dans ce déplacement, dans ces tours, il y a comme une ouverture, finalement, à ce qu'est Dieu. Et à mon avis, ben, c'est déjà l'essentiel de la prière. C'est ce « et il vint ». Voilà, il vint devant Yahvé, devant l'éternel, on traduit, ou devant le Seigneur, dans certaines traductions.
Oui. D'abord, comme il dit, la pensée. Et s'il n'y a pas de langage, est-ce que ça peut être aussi une prière?
Ah ben tout à fait, moi je dirais justement. Mais même justement, je crois que justement, voilà. Justement. Le fond même de la prière, c'est d'abord, c'est pas la parole. C'est peut-être même pas. C'est déjà quand on se met en route vers Dieu, c'est déjà mental, si vous voulez. C'est même pas penser à quelque chose. Ça peut être déjà une ouverture, finalement. Une ouverture qui engage déjà le corps, qui engage déjà l'être, finalement. Et à mon avis, fondamentalement, la prière, c'est d'abord ça.
D'ailleurs, quand il est dit prier sans arrêt à un endroit, je ne sais plus où,
oui,
il est certain que ce n'est pas parler sans arrêt. C'est de ne pas se séparer de Dieu, en fait.
Oui, alors ça peut être ça.
Peut être dans le métro et,
oui,
et prier dans sa tête. Et...
Oui, voilà. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça, prier sans cesse, voilà. Ça peut être, ça peut vouloir dire que toute notre vie est avec Dieu. Ça peut vouloir dire aussi, comme vous le dites, qu'il n'y a pas de mauvais moment et que voilà, c'est pas la prière à tel endroit, à telle date, vaut pas plus que telle autre prière. C'est cette sincérité qui peut nous... venir surgir à un moment de notre existence, c'est ça, dans cette sincérité finalement qu'il y a l'essentiel de la prière. Mais aussi, si vous voulez, c'est qu'il faut comprendre les textes bibliques, par exemple le texte, le psaume premier qui dit « Le juste, il médite la parole de Dieu jour et nuit, il est sans arrêt enraciné finalement dans la prière en Dieu ». Mais c'est une typologie, si vous voulez. Ça veut dire, voilà, il faut être, le juste, il est... 100% connecté à Dieu, 100% au service des autres et 100% aussi centré, je veux dire, bien avec soi-même. Alors c'est impossible d'être comme ça à 300%. Ça veut dire, bon, il y a là une typologie, il y a une piste de direction, un idéal qui nous est proposé. Comme l'idéal est impossible, ça veut dire, écoutez, on n'est pas à l'usine, on se calme, c'est des pistes, c'est une orientation, c'est ensuite, bah, faites au mieux. Vous voyez, c'est aussi pour nous libérer. C'est souvent comme ça que fonctionne la Bible et l'Évangile en particulier. Ça pousse le bouchon beaucoup plus loin, à l'infini, pour dire, bah, écoutez, c'est un idéal, ensuite faites au mieux, faites comme vous le sentez. Et ça, je trouve que c'est à la fois stimulant et très libérant, finalement, cette façon, j'allais dire, de nous faire la leçon. Voilà. Ça montre un idéal de perfection, et puis voilà.
Le récit du palmarès commence par cette phrase, prier sans cesse. Donc, le frein a une discipline qui est une discipline mentale et respiratoire, finalement, qui n'arrête jamais d'après.
Avec toujours ces petites phrases, cette petite phrase.
Et du coup, il n'a pas ses méditations sur la Bible, il n'a plus besoin, il a une phrase, cinq mots, puisqu'il faut cinq battements de cœur. Et ça devient une discipline du type yoga. Où on voit bien dans le récit du pèlerin russe qu'il y a de moins en moins de pensées dans sa vie.
Oui, c'est ça. Alors ça, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ça soit un modèle. Je veux dire, on a tout à fait le droit, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez bien raison de dire que c'est un peu un mix entre une méditation de type oriental et l'Évangile. Alors on a tout à fait le droit, si vous voulez. A priori, je dirais plutôt la foi de Jésus-Christ, c'est plutôt, ça encourage plutôt à une prière vraiment personnelle, voilà, hein, de la rencontre avec Dieu. C'est un peu ce qu'on a ici aussi. On insiste plus sur la sincérité du cœur ouvert à Dieu que sur un rite répété et qui vient... vider la personne de sa personnalité. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait, parce que le pèlerin russe, et comme le samaritain indien, c'est quelqu'un qui ne s'insère plus dans la société. Il n'a plus de famille, ou s'il en a, c'est comme s'il n'en avait pas.
Et oui, c'est ça.
Il ne travaille pas, donc il ne s'insère pas dans le tissu social. Et moi, c'est ça qui me pose un peu question, même si dans le récit mythique russe, donc c'est quand même à l'Orient, il y a quelques rencontres. Il y en a extrêmement peu.
Non, mais ça vaut le coup de lire ce livre, néanmoins.
Oui, formidable.
C'est formidable, oui. Mais c'est vrai que, si vous voulez, ça peut être là aussi, ça peut être une façon... Une façon dont ce livre propose une spiritualité, mais avec une caricature, vous voyez. Et ça peut être aussi, je veux pas du tout critiquer l'idée, par exemple, que peuvent avoir certains chrétiens d'avoir, par exemple, je sais pas, les cathos, qu'on peut avoir le rosaire ou je sais pas quoi, ça peut être une pédagogie pour entrer en prière. Et si vous, ça vous aide, si vous voulez, pour avoir cette prière sincère du cœur, d'avoir un rite, c'est-à-dire de prendre un temps où vous vous répétez le Notre Père, par exemple, où vous vous placez à tel endroit de votre chambre où vous êtes, vous avez pris l'habitude de prier. On peut avoir besoin comme ça de méthodes, de trucs finalement qui nous aident à s'extraire du monde, comme vous dites, pour arriver à avoir un temps pour soi, comme dans un désert. C'est peut-être, vous voyez, une caricature qui est proposée. Ça ne veut pas forcément dire que ça soit un modèle de société ou un modèle de foi.
J'ai connu des gens qui venaient d'Orient et qui considèrent le Notre Père comme notre mantra occidental.
Ça peut, mais on peut en faire d'autres usages que ça.
Pour toi, c'est comme ça qu'ils le voient.
Voilà, on a le droit, je veux dire, chacun son truc. Nous, c'est plus un exemple. Alors, c'est vrai que c'est une prière qui nous est chère. Ça peut aider à entrer en prière, c'est vrai. Mais ensuite, la vraie prière, à la limite, elle va être entre les lignes du Notre Père dans la manière dont nous allons l'habiter, ou bien ensuite dans ce qui va venir, ou bien peut-être simplement dans le fait de se dire « Tiens, dans ma journée, je vais dire un Notre Père ». Ça peut être le « et il vint » du début de ce texte, pour avoir cette démarche vers Dieu. Et c'est déjà ça, une démarche, j'allais dire, de contemplation, c'est-à-dire de se placer devant Dieu comme étant... plus grand que soi, source de vie pour soi. Voilà. Alors ensuite, si on continue le texte, le roi David, alors le roi, après, il ne se traite pas du tout lui-même comme roi, il se traite au contraire comme serviteur. Et ça, c'est intéressant de voir qu'ici, on le présente comme roi, mais justement, la vraie question, c'est savoir est-ce qu'on reconnaît Dieu comme roi de sa vie ou si nous, on se considère soi-même comme étant le roi de notre existence, le roi du monde autour de nous, ou même Dieu. Ça, c'est quand même une question qui est proposée dès le début. C'est le statut. Ensuite, devant Dieu, il n'y a ni roi ni esclave, bien entendu. Pour Dieu, toute personne est égale. Alors David, je vous l'ai dit, c'est un peu le bien-aimé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous est dit à nous, si vous voulez, d'être en nous-mêmes le bien-aimé de Dieu. Alors là, ils ont mis dans la traduction « et il s'assit dans l'interlinéaire ». Et là, dans le français, ils ont mis « il alla se présenter devant l'Éternel ». Parce que le mot hébreu qui est là, ça veut dire « il s'installa » ou « il s'assit ». Alors, ils disent « il s'installa », il ne va pas s'installer tout le temps devant Dieu. Donc, ils ont dit « on va plutôt traduire « il s'assit ». Mais s'asseoir devant Dieu, c'est étonnant, ce n'est pas une attitude normale de prière, si vous voulez. Ce n'est pas une attitude normale. Alors bon, nous, on prie comme on veut. On peut prier assis, couché, debout, sous sa douche, en voiture, n'importe. En voiture, il faut peut-être faire attention. Quoi.
Vint
s'asseoir, oui.
Si dans le monde hébraïque, est-ce que le fait de s'asseoir n'a pas une signification?
C'était plutôt l'enseignement, c'était plutôt quelque chose comme ça que la prière. La prière, elle peut être... c'est quand même assez rare de dire « s'asseoir pour parler avec Dieu ». Non, c'est plutôt debout, en fait. Ça peut être agenouillé, ça peut être à quatre pattes, à plat ventre, ça peut être comme devant un grand roi, si vous voulez, devant un monarque, on se mettait à quatre pattes, le visage à terre, pratiquement, ou carrément à plat ventre. Il y a des attitudes qu'on retrouve, si vous voulez, ou debout, devant Dieu. Mais assis, ce serait rarissime. Alors, cela dit, on va voir plus tard qu'il est face à face avec Dieu, donc ça peut être vraiment l'idée d'être à hauteur égale, finalement, avec Dieu. Ce serait très touchant.
Ça exprimerait quelque chose.
Ça peut exprimer quelque chose.
Dans l'idée des rédacteurs, l'idée qu'ils veulent donner de David.
Oui, alors il y a l'idée peut-être aussi, voilà, il s'installa, donc en fait, il y a l'idée de, comme vous le disiez, d'être, comme disait Madame Calancas, d'être dans la prière vraiment toute sa vie avec Dieu, voilà, que par sa prière, c'est sa vie entière qui vient se construire sur la présence de Dieu. Après, on le comprend comme comme on le veut, si vous voulez. On n'a pas la lecture qui est la meilleure. Cela dit, là, il y a une petite question, et il y a donc là, comme toujours, il y a plusieurs sens que l'on peut trouver pour enrichir notre compréhension de Dieu et de l'attitude juste avec lui. Il y a plusieurs possibilités, donc, pour comprendre ce petite chose étonnante qui est ici, dans ce détail. Alors, devant, le mot devant, c'est... Il y a le mot visage dedans, hein, face à face, avec Dieu. Voilà, il y a un peu l'idée. Alors, voyez là, vous voyez le tétragramme, YHWH, il y a une petite virgule, un petit machin carré, un petit machin long et un petit machin. Donc ça, c'est ces quatre lettres. Hein. C'est connu, vous les retrouverez même souvent, hein, ces quatre lettres hébraïques. Vous les connaissez peut-être parce que si vous vous intéressez à l'art religieux, il y a beaucoup dans les églises, dans les peintures, on retrouve souvent ce tétragramme, par exemple, dans un triangle ou... On le retrouve, donc ça veut dire c'est sur la racine du verbe être, en fait c'est la racine du verbe être, ça veut dire je suis, ou j'étais, ou je serai, c'est un temps un peu improbable, donc ça veut dire un peu quelque chose comme ça. L'Apocalypse le traduit par celui qui était, qui est et qui vient, c'est une assez bonne traduction ces quatre lettres, voilà. Alors c'est traduit par l'éternel dans les traductions françaises depuis le XVIe siècle. Dans beaucoup de traductions, c'est marqué le Seigneur, parce que depuis pas si longtemps que ça, mais enfin quand même depuis 2500 ans peut-être, les Juifs ne prononcent pas ce mot. Quand ils lisent le texte hébreu, ils lisent à la place Adonai, qui veut dire le Seigneur. Mais si vous voulez, cette tradition de ne pas prononcer ce YHWH et de prononcer à la place le Seigneur, c'est une option théologique qui n'est pas du tout évidente ni obligatoire. À mon avis, qui est même plutôt fâcheuse, parce que quand il y a ce mot, c'est plutôt Dieu comme source de l'être, c'est plutôt le Dieu maternel qui nous donne à exister, qui nous donne à être, qui nous allaite, qui nous nourrit, qui nous pardonne, qui nous élève. C'est plutôt un Dieu de tendresse. Et le Seigneur, on pense plutôt à un roi surplombant, qui nous donne la loi, qui nous punit quand ça ne va pas, machin. Donc c'est un peu fâcheux. Voilà. D'autant plus qu'ici, les gens qui traduisent le Seigneur, ils sont drôlement embêtés parce que, voyez, dans tout le temps dans le texte, il y a toujours marqué... Adonai Yahvé, en fait. Donc, il y a toujours marqué. Alors, les traductions qui mettent le Seigneur pour Yahvé, ils sont ennuyés parce qu'ils mettent le Seigneur, Seigneur, quoi. Donc, c'est un peu ennuyeux. Alors, cela dit, le grec, la traduction grecque des Septante, ça date de moins 300. Ils mettent curier mou curier, c'est-à-dire mon Seigneur, le Seigneur, en fait. Ce qui n'est pas inintéressant, parce que ça veut dire que Adonai, ça veut dire... Seigneur au pluriel, donc c'est un pluriel de majesté pour dire le grand Seigneur, le roi des rois finalement. Mais si on vocalise autrement, les voyelles, vous voyez, elles ne sont pas dans le texte hébreu d'origine. Ça aussi, c'est une option théologique de mettre des voyelles à gauche ou des voyelles à droite. Donc si on vocalise différemment, au lieu d'Adonai pour le Seigneur, ça veut dire Adoni, ça veut dire mon Seigneur, avec un possessif. Et ça, c'est assez touchant, parce que du coup, ça devient une confession de foi. C'est plus simplement de la théologie. Ça veut dire, Mon Seigneur, celui que je reconnais comme le chef de mon existence à moi, c'est le Dieu de tendresse maternelle, Yahvé, qui est source de l'être. Et donc ça devient une confession de foi. Donc ça, je trouve que c'est... Donc le grec, lui, dans moins 300, il l'avait lu comme ça, eux, comme étant un peu une confession de foi de David, mon Seigneur, qui est ce Dieu de tendresse, finalement. Alors ça, on le retrouve, par exemple, dans le psaume... J'avais trouvé ça quelque part. Le psaume 16, verset 2. « Mon âme, tu dis à Yahvé, tu es mon Seigneur. » C'est un choix, finalement. C'est une déclaration de foi, de reconnaître Dieu en tant que tendresse, que source de l'être, comme étant celui dont on veut qu'il soit, qui règne sur notre vie, qu'il l'oriente, qu'il la féconde, et que ce soit vraiment avec cette conception-là de Dieu qu'il désire marcher. Voilà. En tout cas, c'est vers ce Dieu-là qu'il va face à face. Alors ensuite, « Et il dit, et il parle, donc David, « Qui je suis, hein, qui suis-je, Seigneur éternel ?» ou alors « Mon Seigneur l'Éternel ?» Et qui est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici, ici. Alors moi je trouve que voilà, un des grands bénéfices de la prière, d'abord c'est de se poser la question sur qui on est. Et c'est vrai que c'est une bonne occasion de faire le point. Et c'est peut-être le premier des grands bénéfices de la prière et de la contemplation en particulier, en se plaçant devant Dieu, que ça vienne éclairer qui nous sommes en réalité. Alors c'est vrai que se sachant aimé, se sachant peut-être appelé à être roi, c'est-à-dire à agir en ce monde, à faire des choses, à savoir comment se décider, comment gouverner pour que le monde soit plus vivable, eh bien, s'interroger face à Dieu sur qui je suis. Mais finalement, si vous voulez, dans cette interrogation, il y a plutôt la stupéfaction de David que Dieu se soit intéressé à lui. Et donc la première chose qu'il ressent, c'est le côté immérité finalement, du fait que Dieu s'intéresse à lui, les nommer roi, le bénisse, lui promette que sa maison, c'est-à-dire non seulement son entourage, mais son action en ce monde, et puis au-delà même de sa survie en ce monde, soit vraiment béni par Dieu. Donc c'est cette stupéfaction qui ouvre finalement cette prière. Alors Seigneur Dieu, Seigneur Yahvé, c'est quelque chose qui apparaît assez souvent dans la Bible, dans un contexte, on dit, de théophanie, c'est-à-dire quand Dieu est présent et rencontre la personne. Donc on pourrait dire aujourd'hui une expérience mystique finalement. Alors tout le monde n'en a pas, je veux rassurer ceux qui ne seraient pas le sentiment de la présence de Dieu qui vient là dans leur prière. Tout le monde n'exprimerait pas les choses comme ça ou ne ressent pas les choses comme ça. Apparemment c'est quand même relativement partagé. Moi, je dirais, au vu des gens que je rencontre, par exemple, les gens qui découvrent la foi chrétienne et qui viennent de l'athéisme, par exemple, et qui découvrent la foi chrétienne, il y en a 50%, j'allais dire, bon, je n'ai pas fait le compte un à un, si vous voulez, mais grosso modo, comme ça, à la louche, il y en a la moitié qui viennent suite à... Ils sentent la présence de Dieu et quelque chose, effectivement, qui les aime, qui les entoure, qui les garde. Et ensuite, eh bien, ils viennent du coup pour creuser, savoir qu'est-ce que c'est que ce Dieu qu'ils se ressentent dans la prière. L'autre moitié n'ont jamais rien senti de particulier, mais c'est plus une démarche théologique, philosophique, existentielle, ou bien pour honorer, je vais dire, suite à un témoignage de grands-parents, de femmes, personnes qui sont très croyantes et qui les ont touchées, et ils veulent marcher sur les pas de cette façon d'être et d'espérer. Mais quand même, Il y a des gens qui jamais ne sentiront la présence de Dieu ou qui ne l'exprimeront pas comme ça. Voilà, on a le droit. On n'est pas tous sur le même modèle. Et de toute façon, à mon avis, c'est... Bon, il y a des sensibilités plus ou moins émotives, si vous voulez. C'est comme la musique, hein. On n'est pas forcément sensible à écouter du Jean-Sébastien Bach. Il y a des gens qui me disent « ça ne me dit absolument rien, ça ne me parle pas du tout », et d'autres qui sont bouleversés à tomber en larmes. Donc, c'est pas... Ça veut... Vous voyez, il y a sûrement, à mon avis, quelque chose qui est de l'ordre de Dieu qui vient rencontrer la personne. Ensuite, tout le monde n'y est pas forcément sensible sur le registre de l'émotion, j'allais dire. C'est comme ça. Donc, c'est pas grave. Ça peut venir ou ça peut ne pas venir. Mais de toute façon, j'allais dire, le vrai bénéfice de la prière, on peut dire après coup. Après coup, c'est on a reçu quelque chose qui nous rend plus vivants, plus pacifiés, plus conscients de notre profonde valeur. Donc il y a un déplacement qui s'est opéré. Donc on peut dire qu'il y a eu Dieu qui était présent et qui a agi. Bon, ce n'est pas forcément sur le registre de l'émotion. Donc théophanie, il faut le voir au sens large de quelque chose qui se passe. Ou dont on peut dire après coup qu'il s'est passé quelque chose. Pas forcément après chaque petite prière individuelle. C'est comme le fait qu'on mange les fameux 5 légumes par jour. On ne va pas forcément le lendemain matin se porter tout d'un coup à bondir comme un cabri. C'est peut-être un peu plus sur le long terme. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Oui ?
Par exemple, quelqu'un qui dit « moi, je ne sens jamais la présence de Dieu », est-ce que ça remet en cause sa foi ?
Non, pas du tout. C'est ce que, justement, c'était l'objectif de ce que je disais. C'est que ça ne remet pas en cause ni la foi ni la prière. Ce n'est pas parce qu'on ne ressent rien qu'il ne faut pas prier. Je vous dis, déjà, prier, c'est, à mon avis, c'est une démarche très saine. Ben, ne serait-ce que psychologiquement, si vous voulez. Faire de la théologie, c'est s'interroger en quel Dieu on croit, c'est-à-dire quel est pour nous l'idéal de la justice, de la paix, de la source de la vie. Voilà. C'est quand même pas inutile de se demander qu'est-ce qui rend la vie plus vivante et plus belle. C'est une bonne démarche. Ensuite, la prière, c'est se placer face à son idéal et essayer de situer son être dans une interrogation personnelle, comme nous le voyons ici. Face auquel on se place. Donc ça vaut le coup de prier. C'est une mise en cohérence de son existence. Moi je pense par ailleurs que Dieu n'est pas simplement quelque chose d'interne à l'homme, mais qu'il existe d'une manière externe aussi, parce qu'il a commencé externe aussi à l'univers intérieur, ayant participé, suscité, rendu possible, je ne sais comment, une évolution dans l'univers. Donc, c'est une façon de parler et que c'est simplement cette saine démarche d'humilité, de se placer face à son idéal qui apporte un vrai bénéfice à notre existence, je n'en sais rien, qu'importe. Ça vaut de toute façon le coup d'être pratiquant comme ça, j'allais dire, dans la sincérité, dans l'intimité, dans le secret de sa chambre. De toute façon, c'est fécond et c'est sain pour prendre sa vie en main. Oui. Bon, par ailleurs... Je pense que Dieu apporte un supplément d'être et d'évolution et qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se passe, qui dépasse largement la simple auto-analyse dans notre évolution à travers la prière. Mais qu'importe.
Ça peut nous aider à évoluer.
Mais moi, je pense, franchement. Oui, personnellement, bien sûr. Oui, oui, ça, je suis
ça
sûr.
Ça conduit à une évolution de l'être.
Moi, je pense.
Dans cette aspiration,
Et je pense dans l'évolution de la personne, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ça remet les choses en perspective, ça remet le meilleur sur le dessus. Moi,
même
je pense
si
vraiment.
On ne sent pas la présence de Dieu.
Absolument. Je dirais de deux façons. D'abord, d'une façon simplement psychologique, comme une auto-analyse. Ensuite, d'une façon, j'allais dire, transcendante, par ce que peut apporter Dieu comme mystérieuse onde d'évolution.
Tu es sensible à notre prière, c'est
ça ? Alors, à mon avis, si vous voulez, si on prend la Bible, il est même plus sensible qu'il ne semble. Alors, au moins, c'est une ouverture à ce que Dieu a toujours rêvé de nous apporter. Mais ça aide si on s'ouvre à cette évolution, voilà, hein, c'est à ce déplacement éventuellement qu'il espère de nous. Mais Dieu est sensible aussi dans l'autre sens, c'est qu'il se laisse influencer par ce qu'on lui dit. Alors ça, c'est peut-être moins courant de dire ça, mais ça se voit très fréquemment dans la Bible. Parce que souvent on présente un Dieu qui est tout puissant, qui est omniscient, qui a tout écrit d'avance dans un grand livre, pas du tout. C'est pas du tout le Dieu biblique, ça. Le Dieu biblique, au contraire, il passe son temps à se laisser surprendre par l'homme et à changer ses plans en fonction de ce que l'homme désire. Donc non, on influence Dieu aussi, à mon avis. Alors ça, c'est au niveau biblique et à mon avis, au niveau même, j'allais dire, psychologique, bien sûr. Quand on se tourne face à son idéal, on fait évoluer aussi son idéal. Parce qu'il va être nourri de ce qu'on a vécu, si vous voulez. Quand on est dans la louange, on se dit, ben tiens, ce que j'ai vécu aujourd'hui, ça a été source de vie. Du coup, ça vient influencer notre notion de ce qu'est source de vie bonne dans l'existence. Du coup, ça fait évoluer notre conception de Dieu aussi, vous comprenez, à travers la louange. Donc, vous voyez, il y a un aller-retour, à mon avis, oui. Voilà, voilà. Alors bon, il faut qu'on a...
Oui. Des expériences concrètes, des exemples, Dieu se laisse influencer. Vous auriez des exemples dans le monde contemporain ?
Alors, dans le monde contemporain, oui, c'est difficile de dire, voilà, qu'est-ce que Dieu... est-ce que Dieu a changé d'avis ou pas ? Mais si on prend... Bon, à mon avis, intellectuellement, je le dirais, théologiquement aussi, mais si, au point de vue biblique, si vous voulez, il y a des tas d'exemples. Hein. Le plus flagrant, puisqu'on parle de David qui est roi, ben, au début du premier livre de Samuel, eh bien, si vous voulez, les Hébreux veulent un roi comme les autres nations. Et Dieu dit, écoutez, c'est une mauvaise idée, il va vous piquer vos femmes, vous piquer votre argent, ça va être la catastrophe. Le peuple, si, on veut quand même un Dieu, dit, ben, écoutez, réfléchissez bien, moi, je ne vous conseille pas. Bon, on en veut un. Bon, alors Dieu, d'accord, il leur donne un roi qui va être Saül, le premier, ensuite David. Mais le premier roi, ça commence bien, ensuite il devient fou. David, il y a du bon et du moins bon, et encore c'est un des meilleurs rois. Salomon, ça commence super bien, et puis après, ça se passe beaucoup moins bien. Après, c'est des catastrophes. Donc, si vous voulez, on voit Dieu, vous voyez, qui avait un plan, qui dit non, il ne faut pas faire ça. Puis finalement, les humains, ils tiennent absolument, et Dieu fait avec. Mais de toute façon, ça, c'est fondamental, la théologie, si vous voulez, de beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Mais encore plus spécifiquement de l'Évangile, Dieu se fait serviteur en Christ. C'est-à-dire que c'est l'homme fait un peu à sa tête et Dieu court derrière pour essayer de rattraper, de porter, d'accompagner, de consoler. Mais c'est ce que fait aussi des parents. L'enfant dit « je veux faire du théâtre ». Écoute, si on serait toi, que je passerais ton bac d'abord et puis j'irais plutôt à l'université pour être fonctionnaire, c'est quand même plus sûr. Non, je veux faire du théâtre. Les parents, comment on va faire ? On essaye de l'inscrire au cours Florent, on essaye de trouver un truc, comment vous feriez ? Eh oui. Alors ensuite, il devient peut-être Adjani ou Depardieu ou je ne sais pas qui, mais 9 fois sur 10, il va crever un peu la faim, à courir des petits machins, à aller vendre des pizzas. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Donc c'est pareil, j'allais dire, Dieu, il conseille et puis il accompagne. Voilà, c'est vraiment ce qu'on voit en Christ. Donc,
moi,
un Dieu qui.
Quand je voyais des l'éternel mon père, parce que je trouve que...
Oui, ça c'est beau, oui.
L'éternel mon père, parce que je trouve qu'il y a justement un côté paternel.
Mais paternel moderne, c'est pas le père de l'ancien temps très sévère, c'est paternel maternel.
On peut pas dire ma mère, parce que...
On peut dire ma mère,
on peut dire...
Parce que Dieu est père et mère, oui, en même temps. Il a un Dieu, un Dieu père qui a une tendresse maternelle.
Dieu féminin, oui, j'avais fait des... Moi, j'avais un temps, il y avait un pasteur américain qui avait fait un livre sur Dieu féminin.
Vous avez eu une prédication.
Oui, j'avais fait ça, oui. Avec la bénédiction, donc, par Jacob, de Joseph, oui. Vous pourrez trouver sur le site. Donc si on continue, si vous voulez, donc donc Dieu est stupéfait, voilà, David est stupéfait donc de ce que Dieu a fait pour lui. Et c'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel, tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur éternel? Alors qu'est-ce qui nous en fait comme traduction? On peut voir un petit peu dans l'hébreu. Ça ressemble assez bien, oui. Tu as parlé, ce qu'on peut remarquer, si vous voulez, c'est que tu as parlé. C'est le mot de la parole. Il y a deux mots pour parler, il y a amar et il y a dabar. Dabar, c'est parler comme dans les 10 commandements, si vous voulez. C'est dire un peu le point de vue de Dieu. Son point de vue, voilà, sur ce qui est juste, sur ce qui est bon. Et donc là, son point de vue, eh bien, ça va être de bénir la maison de David. Lui, il s'appelle la maison de ton serviteur, donc il s'appelle serviteur. C'est une bonne façon aussi, c'est déjà aussi de la contemplation, de la louange, hein. Donc cette attitude de Dieu, alors c'est là peut-être que c'est moins bien traduit. Est-ce là la voix d'un être humain? On le voit dans l'interlinéaire, là c'est la quatrième ligne. Est-ce là la directive de l'être humain, Seigneur Yahvé? La directive, c'est en fait c'est Torah, hein, donc on connaît ce mot puisque les Hébreux appellent la loi, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Donc effectivement, l'attitude de Dieu. Vous voyez, c'est plus riche que ça. C'est l'attitude de Dieu devient un peu Torah, c'est-à-dire devient un enseignement pour l'être humain. Et ça, je crois que c'est un petit peu fondamental, parce que surtout dans ces premiers livres de la Bible, et là, le 2 Samuel fait encore partie de cette grande saga, si vous voulez, de l'histoire du peuple hébreu, les actes de Dieu sont un enseignement pour l'homme. C'est-à-dire, d'abord, ils disent qui est Dieu, donc c'est de la théologie qui est mise en récit, ou c'est des événements qui sont source de réflexion théologique, c'est les deux, si vous voulez. Mais aussi, ça dit ce qui est juste, ça dit le bien, ça dit le bon. Alors, c'est déjà une leçon d'exégèse, si vous voulez. Ça veut dire que ces récits, ils sont à lire comme étant de la théologie et de la morale et de l'éthique et vous voyez ce que je veux dire. Alors ça peut se lire dans les deux sens, comme j'essaye de l'expliquer. C'est-à-dire que Dieu, dans les actes de Dieu, on peut lire, comme je vous le disais, pour la louange, quand on a remarqué quelque chose de bon qui nous a rendu plus vivants dans notre existence, il y a eu là quelque chose qui est source de vie, donc qui nous parle de Dieu. Prendre de dire que l'amour, la compassion sont source de vie pour nous. À mon avis, c'est une expérience concrète, mais du coup, on peut en déduire quelque chose sur la théologie, de dire, ben, Dieu est comme ça, finalement. C'est une des caractéristiques de Dieu. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de ces récits qui sont une mise en récit de vérités théologiques et existentielles. Ça ne veut pas dire que c'est un mensonge quand on nous dit que Jésus a marché sur l'eau sans kénotique. S'il a marché sur l'eau sans kénotique, c'est pour nous dire quelque chose à travers un signe, finalement, de l'amour de Dieu. S'il n'a pas marché physiquement, ça ne veut pas dire que c'est un mensonge de nous raconter cette histoire. Ça veut dire que l'écrivain biblique, pour témoigner de sa foi, de son expérience de Dieu, il l'a mis dans un récit comme ça pour nous dire que, au sens figuré, c'est ce que nous pouvons vivre par la foi. En l'occurrence, Jésus qui marche sur l'eau, par exemple, ça veut dire que voilà, on peut être porté finalement par la foi, par Dieu. Même si à vue humaine on aurait dû couler dans les difficultés, eh bien on peut être porté par la foi. Donc vous voyez, c'est un peu ça que ça nous dit. Les actes de Dieu sont Torah, sont enseignement pour l'être humain. Ça nous dit qui est Dieu et ça nous dit aussi qu'est-ce qui est juste de faire, comment agir. Ça nous dit aussi une éthique. Donc en l'occurrence, une éthique de la grâce imméritée par exemple pour être... source de vie, source de bonnes paroles pour les personnes que nous voulons soutenir, aider, accompagner. Peut-être, par exemple. Hein. Alors au verset 20, « Que pourrait te dire de plus David ? Tu connais ton serviteur, toi Seigneur éternel. » Donc là c'est rigolo parce que si vous voulez, il dit « Mais en fait, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier parce que de toute façon... il vaut mieux simplement ouvrir mon cœur à Dieu. Dieu va lire à l'intérieur de nous-mêmes, mieux que nous ne le pourrions l'exprimer, notre vraie prière finalement, notre sincérité, notre espérance, notre joie, notre souffrance. Et finalement, c'est cette ouverture du cœur. Donc le « et il vint se présenter ». Vous voyez, ça s'intériorise déjà finalement là, de dire « ben écoute, viens lire à l'intérieur de moi-même la prière ou viens mettre sur mes bouches la juste louange. Je ne peux pas faire mieux que de te dire ça. » Et c'est là que la prière devient un peu silence, j'allais dire. Ce qui n'est pas évident, parce que souvent nous saturons le silence de bruit. Alors ça, on peut le retrouver par exemple dans Romains 8, Paul qui dit que c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu lui-même à l'intérieur de nous-mêmes qui vient prier par des soupirs inexprimables. Un très beau passage de Paul. Ben c'est là ce qu'on a ici en fait, aussi. Et même sans parole, voilà, avec le psalmiste qui se tait. Alors ça, on retrouve beaucoup aussi dans toutes les traditions mystiques qui nous sont chères. Hein. Par exemple, Maître Eckhart, Angelus Silesius ou l'auteur du Nuage de l'inconnaissance et d'autres mystiques dont la prière débouche sur le silence. Alors, le verset 21, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, hein, « À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. » Donc, il y a l'idée voilà, de Dieu qui agit et aussi qui transmet à travers ses actions un message à son serviteur, donc à l'être humain. Mais on a presque l'impression là que la connaissance est le but ultime finalement. Alors le mot connaître c'est beaucoup plus profond en hébreu hein, que simplement la connaissance intellectuelle. C'est une connaissance en profondeur, puisqu'on dit même connaître, c'est même un euphémisme pour l'acte sexuel hein. On dit Adam connut Ève sa femme, donc c'est un euphémisme, bien sûr, hein. Mais c'est vrai qu'en hébreu, si vous voulez, le verbe connaître est vraiment quelque chose de plus profond que simplement la connaissance intellectuelle. Alors au verset 22, là vraiment on a la contemplation qui apparaît, hein. « Que tu es donc grand, éternel Dieu, nul n'est semblable à toi, et n'a point de Dieu en dehors de toi. » D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Donc, À mon avis, c'est ça le fond de la contemplation, hein, c'est reconnaître voilà, que nous ne sommes pas Dieu, que Dieu est au-dessus, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, finalement. Je crois que c'est... Bon, bien sûr, on le sait, hein, cela dit, pour le vivre en vérité, c'est pas forcément si évident, et ça remet pas mal de choses en perspective, je pense, dans notre existence, sur ce qu'on poursuit en vérité dans notre existence, c'est-à-dire les préoccupations ultimes, diraient les philosophes, ou alors l'objectif ultime de notre existence. Est-ce que c'est vraiment Dieu et tout ce qu'il y a derrière cette notion, hein, j'allais dire, hein, Dieu en tant que, oui, source ultime de création et de vie, mais aussi tout ce qu'il y a derrière comme amour, comme compassion, comme pardon, comme créativité, comme bénédiction, voilà. Parce que c'est vraiment ça qui est pour nous au-dessus de toute chose. Donc oui, il y a une façon de remettre aussi en perspective notre existence tout entière et peut-être de relativiser un certain nombre de choses qui sont finalement quand même beaucoup moins essentielles. Et ça, je crois que c'est quand même d'un grand bénéfice. Vous disiez, est-ce qu'on peut être croyant et pratiquant sans ressentir Dieu ? Ben oui, parce que là, vous voyez, il y a un bénéfice, à mon avis, quand même fondamental d'avoir cet acte de remise en perspective, de remise sur le dessus de ce qu'est l'essentiel pour nous. C'est pas pour nier tout le reste, comme on pourrait l'avoir dans l'histoire de cette spiritualité dont vous parliez, voilà, le pèlerin russe. C'est pas pour nier nos autres composantes de l'existence, mais c'est pour les replacer à leur place, en fait. Voilà. Et cette remise en perspective, peut-être, vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui ont vécu un moment difficile. Par exemple, on voit des gens qui changent complètement de point de vue sur l'existence après être passé à travers un cancer ou je ne sais pas quoi. On n'est pas forcé d'attendre des moments très durs de notre existence pour avoir cette remise en perspective et avoir une vision plus sage, finalement, de la beauté, et de l'extraordinaire beauté de la vie humaine. Et de ce qui la rend justement extraordinairement belle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'attacher à des choses secondaires, hein, mais qu'elles restent secondaires. Voilà. Parce que c'est les choses secondaires aussi, par exemple une chouquette, ça peut, voilà, ça peut participer à la...
Oui, c'est pas interdit quand même.
Alors c'est de loin pas interdit, mais celui qui vivrait son existence tout entière en mettant les chouquettes au-dessus de tout dans son existence, il y a peut-être un problème quand même.
D'accord, mais il faut arriver à s'y retrouver quand même.
Exactement.
Il y a des gens qui ont du mal. Hein.
Non, mais exactement, c'est justement ça qui permet...
l'essentiel du superflu, il y a des gens qui ont du mal à se retrouver là-dedans.
Voilà.
Ah ben oui.
Mais je crois qu'effectivement, c'est pas pour nos possessions. Bon, je veux dire, c'est vrai que, par exemple, l'argent, c'est quand même assez pratique. Hein.
Ah oui.
Mais c'est bien de posséder son argent et de ne pas être possédé par son argent. Ou alors être de pas être qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, obnubilé par ça. Et donc, si vous voulez, il y a des façons de remettre les choses en perspective où c'est extrêmement libérant. Vous voyez. Et du coup, par exemple, on voit dans l'avare de Molière, le Harpagon, il est possédé par son argent et du coup... sa cassette, vous voyez, pour lui est une charge, alors que l'argent dans sa cassette, il pourrait avec acheter des chouquettes, par exemple, ou il pourrait en donner à des pauvres.
Il ne profite pas de son argent.
Il n'en profite pas et il n'en fait rien. Il n'a pas de projet constructif pour rendre la vie plus belle, ni la sienne, ni celle des autres. Et du coup, c'est quand même problématique. Voilà. Alors que si avec une remise en perspective, eh bien, du coup, l'argent peut devenir quelque chose de merveilleux, finalement. Voilà. Donc c'est comme ça pour tout. Et c'est pour ça peut-être que la contemplation, il y a vraiment cette mise en perspective et remise en hiérarchie et, de notre existence. Ça peut être aussi, dans cette contemplation, ben, avoir de la louange et voir peut-être ceux qui sont autour de nous différemment. Parce que dans la contemplation, on peut voir qui est Dieu en vérité. Et du coup, ça peut nous aider à voir à l'intérieur de nous-mêmes ce qui peut être divin, ou bien chez ceux qui nous entourent, bah, voir aussi quelque chose de divin dans ceux qui nous entourent. Voilà. Et mais c'est là qu'il y a un début d'ouverture aux autres, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Donc vous voyez, Il y a une ouverture aussi à la relation aux autres dans cette contemplation, de se dire, voilà, c'est pas simplement moi qui me fais mon petit Dieu dans cette écoute et dans cette contemplation, mais il y a une mise en dialogue avec ce que d'autres ont entendu de leurs oreilles à eux aussi, pour compléter peut-être aussi notre point de vue, peut-être le nuancer, peut-être évoluer aussi dans qui est Dieu. Donc, vous voyez, il y a l'expérience mystique personnelle, et puis il y a déjà l'ouverture à, peut-être à l'expérience d'autres aussi, pour venir compléter, enrichir. Voilà.
J'ai une question.
Oui.
C'est quoi les deux petites étoiles qu'on retrouve parfois dans le texte?
Les petites étoiles, c'est que je pense qu'il y a... si vous voulez, là, par exemple, en dessous de Ed, c'est que ça ne se traduit pas. Ça introduit une sorte de complément, en fait.
D'accord.
Donc, ça ne se traduit pas, c'est juste de l'hébreu.
D'accord.
Alors, il pourrait y avoir des notes dans le texte hébraïque, parce que, si vous voulez, il y a une fidélité de recopie du texte hébreu. Et quand il y a eu une faute, ou ce qu'il pense être une faute dans l'écriture, il recopie fidèlement la faute dans l'original hébreu, mais en note dans les marges, ils mettent, il y a marqué ça, il faut lire ça.
D'accord.
C'est rigolo, mais ils mettent les corrections dans la marge, en fait, ou les propositions de correction. C'est le cas, par exemple, pour Adonai, il note, il y a marqué Yahvé, mais en fait, on prononce Adonai. En fait, Yahvé, on sait comment il le prononce, parce que tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle. Par exemple, il y a Nathaniahou, tout le monde sait que ça veut dire l'Éternel donne. Et donc, ils savent que YHWH, ça se prononce Yahou, puisqu'on prononce encore le nom Nathaniahou. Donc, ils savent que ça se prononce Yahou, YHWH. Mais ils font semblant de ne pas savoir comment on prononce, que c'est oublié. Par respect pour Dieu, par ce mystère de Dieu. Ça, je crois que c'est de la bonne théologie aussi. Qui est comme toi... On ne peut pas le dire, parce qu'il y a nul semblable à toi, tout mot est impropre pour parler de toi. Donc ils disent, on ne prononce plus. Voilà, alors après le verset 23, y a-t-il une seule nation? Et donc ils se rappellent finalement cette libération des Hébreux hors d'Égypte. Et puis il y a l'idée de la nation unique, et puis et maintenant, éternel Dieu, c'est sur moi, c'est sur ma maison que tu as cette bénédiction. Donc vous voyez, il y a une mise en parallèle de l'histoire du peuple hébreu comme peuple unique, et puis David qui sait qu'il est unique aux yeux de Dieu, et ça je crois que c'est intéressant, et on peut se l'approprier aussi. Tout peuple est unique et toute personne est unique aux yeux de Dieu, et donc c'est pour vivre cette libération aussi, pour arriver à s'ouvrir à cette sagesse de la Bible, pour se l'approprier finalement et voir ce qui en est trace dans notre existence. Alors il y a comme une alliance qui se dit ici, et je trouve que c'est assez beau. Ça, je terminerai avec ça parce que ça suffit. Au verset 24, afin qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Tu fais subsister pour toujours ta parole. Tu vas continuer à bénir pour toujours. Et il va y avoir après dans le texte. Marqué pour toujours, pour toujours, pour toujours. Et donc il y a une danse un peu entre et maintenant et pour toujours. Et on voit que cette alliance, elle est complètement inconditionnelle. Il n'y a pas marqué à condition que je sois assez bon, à condition qu'on soit sage, à condition qu'on prie assez. C'est une alliance qui est complètement centrée sur tu nous reconnais comme ton peuple et on te reconnaît comme notre Dieu, si vous voulez. Donc c'est une alliance vraiment... de reconnaissance mutuelle, de purement élective, purement de relation, de fidélité, si vous voulez, d'attachement. Et ça, c'est quand même assez original. On n'est plus du tout dans le marchandage, dans les bonnes actions, dans les bons points, même dans le pardon, si vous voulez. On est dans... Voilà, pour toi, on est ton peuple, et pour nous, tu es notre Dieu et notre Seigneur, et voilà. Vous voyez, on est complètement au-delà de cette comptabilité. au-delà même du pardon, voyez. Et ça, je crois qu'on a vraiment là quelque chose qui se dit de l'Évangile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je pense que en théologie chrétienne, beaucoup n'ont pas bien percuté, je crois, parce qu'on est encore dans l'idée de faut obtenir le pardon de Dieu, il faut lui supplier pour qu'il donne des bénédictions. On est encore dans l'idée d'un Dieu, voilà, un peu lointain, un peu terrible, un peu centré sur la justice. Or là, non, c'est un Dieu de l'élection. Voilà, la vie se charge de rétribuer déjà, parfois injustement, si vous voulez, malheureusement, hein, aussi. Et puis justement, voilà, c'est que si on fait des bêtises, en général, ça se paye assez vite cash. Hein. Bon, et puis des fois, il y a des catastrophes qui sont purement de la malchance ou de la de dysfonctionnement ou de la méchanceté. Mais c'est pas le fait de Dieu qui vient punir ou qui vient éprouver. Ça marche pas du tout comme ça. Donc voilà, le mal est un mal. Voilà. Et puis pour gagner son paradis, ben non, je veux dire, c'est pas la question du tout. Voyez ici, c'est voilà, Dieu est notre Dieu pour l'éternité et point, c'est tout. Et maintenant et pour l'éternité. Et puis c'est vrai que là, il y a quelque chose, j'allais dire, qui se touche dans la contemplation de cette vérité qui est de l'ordre de la relation. Voilà, qui est une sorte de l'élection. C'est... Oui.
Oui, dans Matthieu 6, il y a quand même Dieu qui demande à ce qu'il y ait une décision du pardon pour qu'il puisse donner son pardon. Dans la mesure où.
On peut voir comme ça, mais si vous voulez, moi je dirais que dans le Notre Père, par exemple, on le verra pour la demande de pardon une autre fois, mais on demande de Dieu qu'il nous pardonne comme nous demandons aussi qu'il nous aide à pardonner. Et je ne crois pas que le pardon de Dieu soit conditionné par notre capacité à pardonner. Oui, mais ça, tout à fait. Mais ça, je suis d'accord, tout à fait. Mais ça ne vient pas conditionner l'amour de Dieu ou l'alliance de Dieu avec nous du tout, vous voyez. C'est simplement, c'est ce que je vous dis, la vie se charge de nous payer cash. C'est-à-dire que celui qui a son cœur plein de colère, de rancune et de machin... C'est pas que Dieu lui en veuille, qu'il n'y ait pas de pardon dans son cœur, c'est que s'il y a une sorte de venin qui vient, de colère, de haine, de rancœur, qui bouillonne dans son cœur, je veux dire, il le paye son enfer, il l'a à domicile, j'allais dire, vous voyez. Dieu n'a pas besoin d'en rajouter une louche. Au contraire, hein, Dieu, il veut venir calmer ça et puis aider à avancer. Oui, ça, oui, ça ne veut pas dire que la vie ne soit pas difficile ou qu'il n'y ait pas de la rétribution par la vie elle-même. Hein. Tout à fait.
C'est quand même un Dieu d'amour, alors.
Ah, ça, complètement, non, ici, oui.
C'est pas un Dieu de colère, comme on l'a souvent dépeint.
Non, et non.
Qui impressionne, qui fait peur.
Non, non,
c'est
oui,
pas
oui.
Ça, finalement.
Oui, oui. Pas alors, ça, non. Mais par contre, si vous voulez, bon, c'est vrai que celui qui pense qu'on dit que Dieu est un Dieu jaloux, ben celui qui. Adore le pouvoir et l'argent, c'est pas que Dieu soit là jaloux et qu'il va le crucifier parce qu'il a une adoration pour l'argent et le pouvoir. C'est simplement que sa vie étant tordue, il va y avoir quelque chose qui va être dysfonctionnel dans sa façon d'espérer, dans sa façon de vivre sa vie. Et c'est malgré Dieu, si vous voulez, qu'il y aura souffrance. Donc on peut l'exprimer comme une jalousie de Dieu qui n'aime pas qu'on ait d'autres faux dieux. Non.
Pas... Celui qui adore uniquement l'argent, s'il perd son argent, il n'a plus rien.
Voilà.
Hein?
Exactement.
Bon, on peut tous perdre son argent.
Donc je veux libérer ceux qui doivent aller au travail peut-être ou qui veulent retourner. On peut continuer à bavarder entre nous. En tout cas, on se retrouve pour ceux qui le désirent et qui le peuvent mercredi prochain donc pour le chapitre suivant donc sur la prière. Merci beaucoup.